Montse Armengou, journaliste à la télévision catalane, est la réalisatrice de trois films essentiels qui visent à révéler et à mettre en évidence des périodes de l'histoire de l'Espagne franquiste volontairement déguisées ou oubliées. Par ce biais, Montse Armengou compte bien rompre le silence qui pèse sur ce passé qui ne passe pas. Son premier film, Les enfants perdus du franquisme, a été un véritable choc pour l'Espagne. Pour la première fois, un travail historique, précis, témoigner de l'enlèvement d'enfants à des familles aux opinions politiques opposées à celles du régime franquiste. Aujourd'hui, Montse Armengou révèle dans son dernier film, Le convoi des 927, ce que fut la souffrance et l'horreur du premier convoi parti de la gare d'Angoulême en août 1940 vers le camp de concentration de Mauthausen. Ce convoi a la particularité de n'être composé uniquement que d'Espagnols réfugiés en France. Le convoi des 927 dénonce la lâcheté du pouvoir français en place à l'époque, la tyrannie franquiste et l'inhumanité nazie. C'est le 5 mai 1945 que la 11e division de l'armée américaine libère le camp de Mauthausen. À son arrivée, un drapeau aux couleurs de la République espagnole est tissé sur un mât. Pour féliciter les libérateurs, les déportés déploient une banderole sur le fronton du camp. Sur cette bande de toile, la phrase suivante: les Espagnols antifascistes saluent les forces de libération.
Et c'est l'histoire de première train à l'Europe occidentale qui sort vers un camp de concentration nazie. Je pense que c'est très important, cette année, le 2005, quand tout le monde parle de la fin de la guerre mondiale, de la libération du camp, on doit dire que le premier train était un train des républicains espagnols. Les razzias contre les juifs, par exemple à la France, commencent en 1942. Et ce train sort d'Angoulême le mois d'août 1940.
Mais avant ce convoi, il y a une histoire des Espagnols en France. Est-ce que vous pouvez nous rappeler justement quel est le sort qui est réservé aux Espagnols qui fuient l'Espagne à cette époque, ici en France, et où vivaient ces Espagnols qui ont plus tard été envoyés donc à Mauthausen?
Bon, si je compare les travails de mémoire parmi l'Espagne et la France, j'admire beaucoup la France. Parce que je pense que vous avez travaillé très bien. Mais on doit dire que j'ai un peu l'impression, et je ne veux pas être un peu gentille, mais que c'est maintenant que les Français commencent à se réveiller sur les traitements qu'ils ont donnés à les réfugiés espagnols. Je dois dire que quand j'ai fait mes interviews, presque tout le monde dit « on doit faire la différence parmi les autorités françaises et la population française ». Donc, quand les Espagnols arrivent à la France, ce qu'on trouvait, c'est un accueillement pas très humanitaire. Ils sont empêchés très souvent de retourner à l'Espagne. N'oublions pas qu'à cette époque-là, c'était le maréchal Pétain qui était ambassadeur français à l'Espagne et qui connaît parfaitement la sorte qui souffraient les Espagnols qui reviennent de la France. Une sorte que ça veut dire prison et exécution. Et malgré ça, il y avait une offensive constante parmi les camps de réfugiés espagnols pour les retourner à l'Espagne. Par exemple, quand on parle des convois, on doit dire que c'est la connexion parmi la France, l'Allemande et l'Espagne qui porte à la mort tous ces gens. Pour l'Espagne, parce qu'ils sont des apatrides, des républicains, des rouges, et qu'ils n'intéressent pas qu'ils retournent à l'Espagne. Pour l'Allemande, parce qu'ils sont des opposants, et ils seront main d'œuvre pour construire les camps. Et pour la France, parce qu'ils sont des indésirables. Et alors, c'est n'importe qui ils finissent à Mauthausen.
Nel Parlamento francés, un diputado de derechas, dijo nada, nada, con esa gente, unos cuantos viejos barcos, los metemos en el océano y los hundimos.
Porque primero dijeron que éramos indeseables y que había que los rojos hay que liquidarlos a todos.
Lo primero que veo cuando paso, Francia, ¿eh? liberté, égalité et fraternité.
Mais en France, des Espagnols sont aussi intégrés dans ce qu'on appelle les compagnies de travailleurs étrangers.
Bon, la première chose, c'est que très souvent, ils sont obligés à être dans ces compagnies. Mais je dois dire qu'il y a une grande différence avant et après l'occupation allemande à la France. Ça veut dire que les résistances des Espagnols pour être dans des compagnies ou pour être mobilisés finissent quand la France est occupée. Parce que pour les républicains espagnols, lutter contre les Allemands à la France, c'est continuer la lutte contre le fascisme. Et c'est à ce moment-là que l'image et la considération des Français vers l'Espagnol commencent à changer. Hein? Ça, c'est très, très important. Après, on doit dire que c'est aussi l'engagement parmi les gouvernements français et les Allemands que les prisonniers français auront un statut de prisonnier de guerre que n'est pas valide pour les Espagnols. C'est une autre chose très importante à dire. Ils ont combattu, ils ont lutté, mais on n'a eu pas les avantages de prisonnier de guerre. Pour moi, le plus important de ce qu'on voit, c'est que nous parlons des Espagnols que non a eu le temps d'être résistants encore. Il y aura beaucoup des Espagnols et des Espagnoles qui deviendront résistance, qui joindront la résistance française et qui finiront au camp de concentration avec beaucoup de Françaises. Mais ce sont les Espagnols qui porteront les triangles rouges de politique, de communistes, des opposants politiques. Ces convois, c'est un convoi de population civile. Ça veut dire que ce sont des familles complètes, avec des femmes, des enfants, des malades, des vieilles. Ils sont des gens qui n'ont pas eu le temps d'être encore résistants. C'est vrai qu'ils ont ces idées républicaines, etc. Mais ils n'ont pas eu le temps d'être résistants encore.
Le triangle bleu d'apatride. Pourquoi ils ont ce triangle bleu d'apatride ? Et vous révélez dans ce film que des échanges se sont passés entre l'Espagne, entre Franco et l'Allemagne nazie d'Hitler.
Le ministre des Affaires étrangères de Franco, Monsieur Serrano Schuner, a envoyé aux autorités françaises, au gouvernement de Vichy, une liste avec 210 noms qui sont un peu les staffs de l'exil. Ça veut dire qu'on demande la répatriation à l'Espagne du président de la République Manuel Azaña, du président catalan Lluís Companys, de la ministresse de la Santé Federica Montseny, etc., etc., de Largo Caballero, etc., etc. Pourquoi ? Parce que c'est bien sûr que la France n'aimait pas tous ces indésirables au terrain français. On doit comprendre que c'est un exode d'une proportion catastrophique, peut-être le plus grand exode pour motivation politique qu'a eu l'Europe. Et c'est la France qui souffre cet exode. Mais il y a aussi l'idéologie du gouvernement français qui n'aime pas ces rouges. Alors, ce qu'essaie le gouvernement français, c'est de les ramener à l'Espagne. Et Franco a deux positions variables. D'un côté, il veut que ces républicains espagnols retournent à l'Espagne pour les faire passer la justice. Mais de l'autre côté, il y a la danger que s'ils rentrent à l'Espagne, se réorganisent. Alors ce qu'on fait, c'est de faire une liste avec ces 210 noms. Et la collaboration de la police française et de la Gestapo ramène quelqu'un, comme par exemple Companys, qui est exécuté à Barcelone. Après ça, ce qu'il y a, c'est qu'ils disent « je m'en fous de tous ces autres ». C'est le gouvernement français qui constamment dit « qu'est-ce que nous faisons ? Je pense que nous devons rentrer tous ces gens à l'Espagne. » Et c'est l'Espagne qui se lève les mains et dit « et il y a une réunion entre le ministre Serrano Suñer et von Ribbentrop. Et Serrano Suñer, c'est « tous ces républicains ne sont pas espagnols. Ils ne sont pas espagnols, ils sont rouges. Il n'est pas possible d'être rouge à l'Espagne. Alors, je me lève la main. Et c'est pour ça qu'ils portent le triangle bleu d'apatride.
Eran familias enteras, de niños pequeños, de pecho y todo ese jaleo.
En los rostros, en la cara, se veía miedo. Un miedo que no se sabía de qué, pero con miedo. La gente llevaba miedo ya.
Le decíamos a los alemanes, ¿dónde vamos? Dicen, vamos para España, pero hay que pasar por arriba porque está bombardeado, hay que pasar por Italia, total. Un cuento terrible.
Y cerraron el tren, decíamos, ¿para dónde nos llevará? ¿Para dónde nos llevará? No sabíamos nada. Era montar, cerrar las puertas y camino para adelante.
Quelles seront leurs conditions au camp de Mauthausen? Il y a des images très très fortes dans votre film, des images d'archives qu'on n'avait pas aussi l'habitude de voir. Quelles vont être leurs conditions et quelles seront aussi les conditions des femmes et des enfants?
Bon, quand ils arrivent, c'est qu'on voit avec 927 personnes, quand ils arrivent à Mauthausen, ils sont séparés. Ce sont les hommes et les garçons à partir de 13 ans qui sont obligés d'entrer à Mauthausen. Après, il y a deux ou trois jours de doute, qu'est-ce qu'on doit faire avec les femmes. On essaie de les ramener à Ravensbrück, un camp féminin, mais à la fin, elles sont retournées à l'Espagne. À Mauthausen, ces Espagnols qui entrent sont un peu des premiers prisonniers qui entrent à Mauthausen. Ils sont les responsables de la construction d'une bonne partie de camp. Et parmi ces premières un et demi, la mortalité c'est très grosse parce qu'il y a une véritable offensive contre les Espagnols. Après, à la fin de 1941 et 1942, on commence à arriver les Russes et les Juifs. Et alors, les peu survivants espagnols qui restent peuvent commencer un peu à respirer, entre guillemets, parce que l'offensive se déplace aux Russes et aux Juifs, parce qu'ils ont appris un peu tous les mécanismes pour survivre au camp. Et c'est pour ça le paradoxe que les Espagnols sont les premiers d'entrer à Mauthausen et les derniers à sortir. C'est ça.
Qu'est-il arrivé à ces femmes et ces enfants qui sont rentrés en Espagne?
Bon, quand ils arrivent à l'Espagne, ils sont mis ou bien en prison ou bien au camp de concentration à l'Espagne. Normalement, elles sont libérées tôt, mais ils seront en persécution constante plusieurs années. Et pensez que ces familles qui rentrent en Espagne n'auront aucune communication avec ses parents à Mauthausen jusqu'à après, 3 ans après. Pourquoi? Parce que ils étaient, ces Espagnols, les premières années dans les mauvaises conditions. Il y a beaucoup de Espagnols qui ont la catégorie nuit et brouillard. Ça veut dire qu'on ne doit laisser aucune trace de qu'est-ce qu'il passe avec eux. Alors, une angoisse terrible est pensée. À l'Espagne de Franco, si vous disiez « Oh, mon parrain, ou mon père, ou mon mari, c'est à Mauthausen », alors ça veut dire le synonyme de qui est républicain, qui est rouge, et alors tous les problèmes commencent. Mais pour moi, quand je parle avec tous ces gens, c'est terrible tout ce qu'ils racontent de la mauvaise situation de camp, de concentration, mais pour moi, la mauvaise chose, c'est quand la guerre finisse, et ils se rendent compte que la guerre finit, que Hitler et Mussolini est tombé, mais pas la même chose pour Franco. Pour moi, le drame commence là. Pour moi, c'est le moment le plus émotif parce qu'ils se rendent compte qu'après avoir lutté à l'Espagne, après l'exil, après avoir lutté contre le nazisme en France, après avoir lutté au camp de concentration, Franco reste intact.
he combatido por un ideal de libertad y de justicia. Y yo no vuelvo a España. Yo lo he perdido todo. Todo, todo, todo. Mi familia, mi bienestar y la libertad, perdida en España. Eso ha sido, es terrible.
Il y a des images, je reviens sur ces images, notamment une qui se félicite de l'arrivée des forces de libération. On voit les antifascistes, cette banderole assez impressionnante. Et puis des images aussi qui accréditent la violence du régime nazi. Comment ont été sorties ces images et qui les ont réalisées? Quelles sont les histoires de ces images?
Bon, il y a une histoire très intéressante qui nous connecte une autre fois à la démémoire que nous avons. Il y avait une prisonnière espagnole au camp de concentration, que c'est Francisco Bosch, qui, en collaboration avec des autres prisonniers, travaillait au laboratoire du camp de Mauthausen. Parmi les plus jeunes du convoi, il y avait un commando qui s'appelait le commando Pochaja. Pochaja était un monsieur qui était le propriétaire d'un cantier dehors du camp, et qui disait aux autorités de Mauthausen, vous devez les alimenter un peu plus parce qu'ils ne peuvent travailler dans ces conditions. Et ça veut dire que ces garçons les plus jeunes qui travaillent au commando Pochaca ont beaucoup, un peu peu de possibilités de survivre. Il y avait une connexion entre les laboratoires et les commandos Pochaca, parce que des laboratoires ont passé clandestinement des négatifs que les jeunes, les garçons du commando Pochaca, cachaient dans un jardin d'une femme autrichienne qui collaborait avec eux. Et ça veut dire qu'à la fin de la guerre, on a découvert tous ces clichés et ces photos ont été des preuves définitives au tribunal au jugement de Nuremberg. C'est pour ça qu'on a toutes ces photos. Et par exemple, les témoins de Francisco Bosch à Nuremberg, ça signifie l'emprisonnement d'un personnage si important dans le régime nazi comme Albert Speer, parce qu'Albert Speer disait au Nuremberg, non, je n'étais jamais à Mauthausen. Et c'est Francisco Bosch qui disait, écoutez-moi, j'ai développé un pellicule qui démontre que vous êtes là en visitant Mauthausen, etc. Voilà.
Demandez.
Reconnaissez-vous parmi les accusés quelques-uns des visiteurs du camp de Mauthausen que vous avez vus lorsque vous y étiez interné?
J'espère.
Quand l'avez-vous vu?
Il était en 1943 au camp des Cousines. Pour des affaires de construction, même à la carrière Mauthausen. Moi-même, je ne l'ai pas vu parce que j'étais dans le service d'identification du camp et je ne pouvais pas sortir. Mais au cours de ces visites-là, le chef du service de Erkenusins a pris toute une pellicule Leica que moi-même ai développée. Dans ces pellicules, j'ai reconnu Speer avec des autres chefs des SS qui étaient venus avec lui.
Si nous ne sommes pas conscients de notre histoire, c'est très difficile que le monde se conscient de notre histoire. Hein? Parce que c'est très difficile de trouver par l'Internet et tout ça quelques mots, quelques phrases en parlant de l'importance des républicains espagnols à Mauthausen.
Merci beaucoup à Montse Armengou ainsi qu'à Progresso Marin, sans qui cette interview n'aurait pu se faire.
Yo me subí un pino verde por ver si lo divisaba, por ver si lo divisaba. Y solo vi un tren blindado, lo bien que tiroteaba, lo bien que tiroteaba. Anda jaleo, jaleo, anda jaleo, jaleo. Anda jaleo, jaleo, anda jaleo, jaleo.